Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Plus depuis le salon autonomique à Lille en direct jusque 17h. Nous faisons vivre ce salon tout au long de l'après-midi, tout au long de cette journée d'ailleurs, puisque nous avons pris l'antenne depuis 10h ce matin. Sachez que vous retrouverez le podcast de l'ensemble des interviews dès demain et que le podcast de la première journée est déjà disponible sur notre site internet radioplus.fr, rubrique podcast, émission spéciale et atelier radio. Il y a quelques minutes, nous étions sur le stand de Blue Linea qui propose des manettes adaptées pour les joueurs de jeux vidéo. On retourne avec Jean-Philippe sur le stand de Blue Linea pour parler cette fois-ci d'une autre innovation qui n'a plus rien à voir avec le ludique, avec le divertissement, mais plutôt là en ce qui va concerner la sécurité des personnes, Jean-Philippe.
Tout à fait, Julien, avec Stéphane que je vais avoir d'ici quelques instants, hein, qui est en train d'expliquer le concept de cette manette de jeu vidéo adaptée. Donc, on est toujours au stand de Blue Linea. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement un bracelet qui va permettre justement de prévenir les secours en cas de chute, même si la personne n'est pas consciente. Stéphane, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et merci de répondre à nos questions sur Radio Plus. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure donc d'un bracelet, c'est la nouveauté un peu cette année, hein, un bracelet qui permet justement de détecter les chutes.
Voilà, donc c'est un bracelet détecteur de chute, c'est un bracelet que les gens portent au poignet, il y a toujours le bouton d'appel et il est programmé avec 22 algorithmes en cas de chute lourde. Donc je le précise, hein, une chute lente ne sera pas diagnostiquée. La personne qui glisse de son fauteuil, ça ne va pas renvoyer l'appel à la plateforme avec un message alerte chute. Il faut que ça soit une chute lourde plus immobilisation de sa part. Et donc ça s'adresse essentiellement à des gens cardiaques, diabétiques, qui avec la maladie ne pourraient pas appuyer sur le bouton.
Vous me confirmez que si la personne est inconsciente suite à sa chute, il y a l'appel qui se déclenche par exemple?
Voilà, donc l'appel arrive chez nous à notre plateforme d'écoute. Les écoutants vont tout de suite engager la conversation avec l'abonné sans avoir besoin de décrocher le téléphone. Et en cas de non-réponse de l'abonné, les membres de la famille, les voisins, le cas échéant, les services de secours seront appelés pour aller voir au domicile de la personne.
Voilà. Alors ça, c'est un dispositif qu'on peut se procurer comment ?
Alors l'agence de Blue Linea, le siège est à Paris, elle est en cours, mais une agence à Lille au 29 rue d'Artois. Et on se déplace à domicile, il y a le site de bluelinea.com où les gens peuvent aussi commander le matériel en ligne. Et quand c'est fait avant 17h, l'appareil est renvoyé, les gens le reçoivent le lendemain.
Voilà. Et alors, il y a une autre innovation dont vous m'avez parlé, c'est le développement, donc l'année prochaine, de la vidéo assistance.
Alors, c'est, oui, l'année prochaine, c'est pas la vidéo assistance, c'est la visio assistance.
Visio assistance, oui, pardon.
Alors, ça s'adresse à un public de seniors ou de personnes en situation de handicap qui a déjà aujourd'hui une téléassistance ou des gens qui ont des troubles cognitifs. Et parfois, les enfants sont angoissés parce que la personne, elle a ce système-là, mais n'appuie pas toujours sur sa téléassistance, ne porte pas toujours son bracelet ou son médaillon, et des fois retrouve le proche par terre parce qu'il a oublié d'appuyer. Donc l'objet de cette visio-assistance, c'est une caméra qui sera installée au domicile de la personne, une application que les enfants auront sur leur téléphone, et ils pourront 24 heures sur 24 se connecter et avoir une information, un visu du domicile de la personne qui est abonnée, qui est seule chez elle, de leur maman pour voir si tout va bien ou s'il y a un problème, quoi.
Oui, parce que effectivement, les personnes isolées, il y en a beaucoup dans notre pays, et effectivement, les proches ne sont pas toujours informés à temps. Donc là, c'est vraiment un dispositif qui permet de prévenir très rapidement.
Voilà, comme ça, même nous, on a parfois des gens, 95% de nos abonnés sont malentendants, et donc on a souvent des appels où la communication est difficile. Et donc on fait appel à la famille, des fois aux voisins, à 3h du matin, et en fait la mamie elle est en train de dormir tout simplement, donc on dérange tout le monde pour rien, et c'est un peu dommage. Et là on espère qu'avec cette solution-là, on pourra nous aussi au niveau opérateur de téléassistance lever le doute, et puis éviter de déranger les enfants ou les voisins quand il n'y a pas lieu d'être, quoi.
Alors si on souhaite justement plus d'infos sur tous ces dispositifs, je vous laisse rappeler Stéphane donc les coordonnées de Blue Linea.
Je peux vous laisser donc l'agence à Lille au 03 20 88 00 70 et sur le site internet www.bluelinea.com où vous avez tous les renseignements. Vous pouvez même envoyer un mail, on vous répond par mail, quoi.
Très bien.
La dernière nouveauté aussi, c'est on a développé un système de boîte à clé parce que le souci d'accessibilité au domicile des seniors, c'est vraiment un parcours du combattant. Et donc les personnels soignants, l'aide à domicile, le médecin traitant, on peut pas multiplier les clés à droite et à gauche. Donc il existe des systèmes de boîte à clé simples avec un digicode. On peut le fixer si la personne le souhaite. Et au moins, ça permet à l'ensemble des intervenants et éventuellement le cas échéant, les pompiers, d'intervenir sans effraction.
Eh bien, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces précisions. Et puis, donc, on rappelle Blue Linea, donc le site bluelinea.com et également donc une adresse sur l'île à laquelle vous pouvez vous renseigner. Merci beaucoup.
Voilà, beaucoup, beaucoup d'innovations qui ont été présentées sur ce stand. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de nombreux stands qui sont accueillis ici à Autonomique. C'est de faire découvrir les innovations et tout ce qui arrive de nouveau sur le marché de l'autonomie, sur le marché du handicap. Ce sont des stands qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais il y a aussi des innovations en matière d'aménagement du domicile. J'ai pu voir en baladant dans les allées d'Autonomique des douches adaptées. Il y a plein de choses comme ça à aller voir. Vous avez encore la possibilité de visiter ce salon jusque 17h aujourd'hui. Voici Mylène Farmer avant que l'ombre.
Mémoire inachevée.
15h, passé de 11 minutes sur Radio Plus. Vous écoutez toujours notre émission spéciale en FM sur le 104.3 ou sur le DAB+, en ce qui concerne vos récepteurs équipés. Émission spéciale réalisée depuis Lille Grand Palais à l'occasion d'Autonomique, le salon consacré au handicap, à l'autonomie et au grand âge. Et si vous étiez avec nous hier, puisque nous étions également en direct hier, nous avons parlé de conduite adaptée avec la société Sojadis et notamment de ce livre blanc qui s'appelle Handi Conduite, que nous avons évoqué et qui parle justement de toutes les démarches à faire pour parler, pour pouvoir passer son permis pour pouvoir conduire un véhicule adapté. Eh bien, on va parler justement des auto-écoles qui accueillent des personnes en situation de handicap avec Thibaut de la Fondation Opal qui est au micro de Jean-Philippe.
Tout à fait, Julien. Donc, je suis en compagnie de Thibaut Macinguin de la Fondation Opal. Thibaut, bonjour. Vous êtes moniteur d'auto-école hein, et vous êtes spécialisé justement dans le passage de permis des personnes en situation de handicap. Alors, avec deux volets, le volet donc voiture, mais aussi plus étonnant, le volet moto. Alors ça, on en parlera après. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà la Fondation Opal?
Oui, donc la Fondation Opal regroupe 8 établissements dans le Nord-Pas-de-Calais. Et nous, on est à Berck-sur-Mer, c'est le centre Jacques Calvé. On est une auto-école intégrée, effectivement, où on fait passer les permis aménagés aux personnes en situation de handicap.
Et donc, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, tout type de handicap. Hein.
Oui, effectivement, on a 4 véhicules aménagés, toutes avec leurs spécificités. Et on peut, de la boîte auto simple à la conduite au joystick en fauteuil roulant électrique.
Très bien. Alors, comment ça se passe au niveau des démarches pour passer son permis quand on est en situation de handicap? Est-ce que c'est plus long que pour les personnes valides?
Alors, les démarches sont quasi similaires à une personne valide, sauf que la spécificité ici, c'est qu'il faudra un aval médical avant d'entamer toute démarche. Donc, un médecin agréé des permis de conduire donne son feu vert et après, on lance les mêmes démarches qu'un permis traditionnel.
Alors vous me disiez, ça s'est beaucoup raccourci au niveau du délai par rapport à avant, parce qu'avant il fallait par exemple déposer son dossier en préfecture, etc.
Tout à fait, c'est exactement ça. Maintenant il n'y a plus que l'aval médical et après la procédure est exactement la même.
Donc ça doit être un soulagement à la fois pour vous et puis aussi pour les personnes en situation de handicap, surtout qui avaient des délais quand même assez importants.
Hein. Oui, tout à fait, ouais, ça réduit le temps et le gain d'énergie aussi.
Alors évidemment, il y a toujours les deux étapes, hein, la conduite, le passage du code, etc. Ça se passe comment pour toutes ces personnes en situation de handicap lorsqu'elles veulent, ne serait-ce que passer le code?
Alors le code, ils font ça dans une auto-école traditionnelle, près de chez eux. Nous, l'apprentissage du code est exactement le même. Et ensuite, la conduite, malheureusement, il y a très peu de centres en France qui font ça. Donc, soit ils viennent en séjour sur Calvé, en hospitalisation, ou alors en hébergement personnel. Et on essaye de faire au mieux pour que ça se passe rapidement, pour que ça réduise les coûts pour tout le monde.
Vous recevez à peu près combien de candidats chaque année au niveau de la Fondation Opal?
Donc l'année dernière, on a fait à peu près 615 évaluations sur l'année et on a passé 90 examens du permis de conduire.
Avec un taux de réussite important?
Je pense qu'on doit être entre 80 et 90% de réussite, oui.
Ce qui est un beau score.
Oui, c'est pas trop mal. Ouais.
C'est pas trop mal. Voilà. Bon, c'est toujours... Vous êtes modeste. En tous les cas, ça permet aussi effectivement de pouvoir bénéficier des joies aussi de la conduite. C'est vraiment quelque chose d'important pour les personnes handicapées d'avoir justement leur propre moyen de déplacement, parce que c'est vrai que dépendre des transports en commun, c'est pas toujours facile. On le voit encore actuellement.
Oui, tout à fait. Même en agglomération, les transports en commun sont pas souvent adaptés ou pas toujours adaptés. Et c'est vrai que c'est une belle autonomie. Hein. De toute façon, pour aller faire ses courses tout seul, c'est une belle autonomie et on a souvent les gens qui ont la banane quoi à la fin. Ouais.
Alors Thibaut, il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est l'aspect moto qui est moins connu au niveau du handicap.
Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a pas d'auto-école en France qui propose le permis moto aménagé. Il y a très peu d'aménagements qui existent. Et donc là, nous on a fait l'acquisition d'une moto avec un sidecar pour permettre aux gens paraplégiques de pouvoir conduire une moto avec toute commande à la main. Donc toutes les commandes ont été mises à la main. Il n'y a plus de commande au pied du tout. Le frein arrière est positionné sur le guidon ainsi que le sélecteur de vitesse.
Ça c'est incroyable ça.
Oui, c'est génial. Bon, on est vraiment au tout début de la procédure. On a eu notre agrément préfectoral pour faire de la moto. Et maintenant, on aimerait bien poursuivre dans cet élan-là, mais il y a un petit peu de chemin encore à parcourir.
Alors justement, là, vous espérez pouvoir commencer à faire passer les permis moto à partir de quand?
Ouais, je pense que l'été prochain, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver, ouais, passer nos premiers permis.
J'imagine qu'il y a de la demande?
Oui, il y a un petit peu de demande, ouais, c'est pas, il y a de la demande, après ça se sait pas, donc on sait pas trop si la demande va prendre, mais on a un petit peu de demande, effectivement.
Vous risquez d'avoir de la demande très bientôt, là, suite à cette émission.
Je l'espère, ouais, ouais, je l'espère.
Alors, justement, on va parler aussi, du coup, d'un permis pour les personnes en situation de handicap, puisque ça a un coût aussi, hein, on le sait, même quand on est valide, ça a un coût. Est-ce que le coût est plus important, du coup, est-ce que ça nécessite plus de leçons, ne serait-ce que ça?
Alors, au niveau volume horaire de formation, on est exactement comme un permis traditionnel, on tourne entre 20 heures minimum légales, après 25, 30 heures selon le profil du candidat. Et au niveau tarif, on est exactement pareil qu'une auto-école traditionnelle. Là, on s'est calé vraiment, on se base, on ne fait pas payer le surcoût lié à l'aménagement du véhicule.
Très bien, donc ça c'est bon à savoir aussi. Hein. Alors, si on souhaite, pour terminer, Thibaut, plus d'informations, comment fait-on?
Donc nous, notre service s'appelle le CECA, au centre Jacques Calvé. Donc on a un site internet, il y a un Facebook, on peut nous retrouver assez facilement, on a Berck-sur-Mer, voilà.
Très bien, bien merci beaucoup Thibaut Makanga d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes moniteur d'auto-école au sein de la Fondation Opal et au sein donc du CETCA, qui est le centre d'évaluation de la conduite automobile. Et donc tous les renseignements, vous tapez Fondation Opal sur internet, vous allez trouver bien évidemment avec votre moteur de recherche préféré toutes les infos nécessaires. Voilà Julien.
Merci Jean-Philippe et pour toutes ces précisions. 15h18 sur Radio Plus, on va évidemment se retrouver dans quelques instants avec de nouvelles interviews. On va retrouver Tal côté musique avec À l'International.
Talk to me, the way you talk to me, so beautiful. Dance for me, cause your body, 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 yeah, baby, baby, it's so unbelievable. Mais toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Tu me balades chaque jour. Tu
petite sœur. Je connais ta peine et ta douleur, les places qu'ils prennent dans ton cœur. J'étais la même petite sœur, petite sœur. Je te vois regarder par la fenêtre comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Crois ma petite sœur, le silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi. Je te vois attendre, attendre que tourne ta chance. Là je t'entre dans la différence et tu refais la liste de ce qui ne va pas.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
15h passées de 25 minutes sur Radio Plus, toujours en direct du salon autonomique à Lille Grand Palais. La culture à l'honneur dans le monde du handicap avec un nouvel invité au micro de Lucie. Il s'agit de Georges Grard, auteur de bandes dessinées qui a notamment, il va nous en dire plus, et bien dessiné la première BD au monde avec des enfants en situation de handicap. Lucie, nous t'écoutons.
Oui, donc Georges est un éditeur mais aussi un auteur et comme on l'a dit, il a écrit la première BD avec un enfant atteint de handicap. Il a aussi écrit une BD avec un chien guide d'aveugle et également un guide du handicap pour les enfants. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre activité ?
Oui, alors juste une précision, la bande à aide, c'est la première BD au monde avec des enfants handicapés. Et en fait, je dis des enfants handicapés parce que toute la bande a un handicap. Alors je vais vous la présenter, mais pourquoi je l'ai faite ? C'est parce qu'un jour dans ma classe, j'ai eu un petit enfant handicapé moteur qui est arrivé et il n'était pas adapté. Ma classe n'était pas adaptée à son handicap parce qu'on était à l'étage. Donc je l'ai porté, je l'ai un peu caché de l'administration et une semaine plus tard, on lui a trouvé une école adaptée au rez-de-chaussée, une classe adaptée au rez-de-chaussée dans une autre école. Et avant de partir, il m'a dit : « On parle de nous les handicapés, mais on nous montre jamais. » Et donc 6 mois après, je suis arrivé avec la bande à aide. Alors la bande à aide, bah, c'est la première BD avec des enfants handicapés. Ed, il est en fauteuil. Tommy, il est déficient, c'est du handicap invisible. Gad, il est nain. Chang, il est malvoyant, il est avec une canne blanche, donc lui, il est appareillé. Et puis Sam, il est obèse. Et donc, ça fait une bande joyeuse. Puis j'ai rajouté un petit bonbon sucré, Cathy, qui est la nana amoureuse de Ed. Et Cathy est belle, valide et amoureuse de Ed. Et donc, c'est un couple handi-valide, un couple mixte. Et après, ben, il suffisait de les faire vivre. Alors, dans le premier tome, eh ben, je les présente dans leur problématique d'accessibilité du regard qu'on porte à l'autre qui est différent. Dans le deuxième tome, ils partent en vacances. Dans le troisième tome, ils font un festival de musique. Il y a Grand Corps Malade et Abdelmalik qui arrivent sur scène à la fin de la BD. Et c'est le vivre ensemble au sein de la cité. Dans le quatrième tome, je les ai vieillis d'un poil parce qu'ils font leur stage en entreprise. Je voulais les confronter au monde du travail. Dans le cinquième tome, ils font du sport. Ça s'appelle « Va y avoir du sport ». Et puis bah là, on va bientôt fêter nos 15 ans, donc le sixième tome va arriver, ça va se passer à l'hôpital, et on parle des problématiques actuelles, par exemple les problèmes de manque de moyens à l'hôpital, rien ne n'est caché dans la bande à aide.
Les grèves qui se passent actuellement, donc moi je me pose une question, vous m'avez bien dit que la bande à aide est née d'un de vos élèves qui était lui-même handicapé, vous avez abordé plusieurs types de handicap dans vos BD, où est-ce que vous avez été chercher vos renseignements, votre inspiration ?
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai tapé juste sans connaître le monde du handicap. Mais c'est vrai que jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu un oncle handicapé que j'ai protégé, que j'ai aimé, aidé. Et ça m'a peut-être donné une valeur humaine supplémentaire. Je pense que ça a été une richesse. Et quand il a fallu aborder le monde du handicap, bah, je suis auteur. J'ai écrit 85 livres, j'ai écrit des romans, du livre jeunesse. Je me suis mis dans la peau des personnes handicapées. Quand je parle du handicap moteur, quand je parle de la déficience, là j'étais instituteur, donc je connaissais des enfants dyslexiques, dysorthographiques, graphique, avec des troubles autistiques parfois. Donc je me suis mis dans cette optique-là et j'ai tapé juste parce que le monde du handicap se l'est complètement approprié, cette bande à aide. Ils sont devenus un peu les étendards du monde handicap alors qu'au départ, moi, j'avais écrit pour les valides. Clairement, j'avais écrit pour que les valides comprennent, apprennent les problématiques d'accessibilité et du regard qu'on porte à l'autre qui est différent. Et le monde du handicap a frappé à ma porte et m'a dit « Mais c'est génial la bande à aide, c'est ce qu'on vit tous les jours. » Et puis surtout, des gamins handicapés m'ont dit « C'est des enfants qui nous ressemblent. » Et donc là, j'avais gagné.
Ça leur permet de ne pas se sentir seuls peut-être aussi.
Alors aussi, et puis surtout, d'avoir des héros qui leur ressemblent tellement, qu'ils ont leurs mêmes problématiques, et puis qui surmontent ces problématiques, et puis qui sont toniques, qui sont rebelles. D'ailleurs, moi, dans tous mes livres, je crois que celui qui me ressemble le plus, c'est Ed. Il est joyeux, il est revendicatif, il est rebelle, il est un peu rouge, un peu gilet jaune aussi.
Vous avez écrit donc d'autres BD en parallèle sur le handicap, donc notamment celui du chien guide d'aveugle qui s'appelle Sparte, des livres du handicap, donc le grand livre du handicap plutôt à destination des adultes, je crois, le petit livre du handicap à destination des enfants. Pourquoi avoir décidé d'écrire d'autres livres sur le handicap par rapport à la bande à aide ?
Alors, j'ai fait la vie d'un chien guide d'aveugle parce que moi, j'avais un chien qui vient de décéder, le pauvre, mon Sparte, 15 ans et demi, un golden magnifique. Et quand la Fédération des chiens guides d'aveugle m'a appelé parce qu'il connaissait la bande à aide pour que je fasse la vie d'un chien guide, de la naissance jusqu'à sa retraite, bah, j'ai fait mon petit Sparte à moi, hein, mon petit golden à moi. Et puis là, je suis très triste, je suis vraiment en manque de lui, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Je serais incapable de l'écrire aujourd'hui, je l'ai écrit de son vivant. Mais aujourd'hui, je suis tellement malheureux que je serais incapable d'écrire la vie de Sparte aujourd'hui. Et puis, surtout, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre généraliste qui explique le monde du handicap au public. Donc, j'ai fait le grand livre à destination des adultes. Puis après, l'ancien institut que je suis, parce que j'ai démissionné il y a 10 ans, je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y a pas de livre Bible sur le handicap, l'histoire du handicap, la place du handicap dans le monde, tout ça. Donc j'ai fait un livre qui s'appelle « Le petit livre des handicaps », qui est très littéraire parce que chaque chapitre commence par une histoire où le héros ou l'héroïne est en situation de handicap. Puis après, il y a des choses à apprendre, à connaître. Et puis après, il y a des blagues, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il y a.
Des informations que vous rendez ludiques, j'imagine, pour améliorer l'accessibilité à ces informations-là pour les enfants.
Oui, pour que les enfants valides, vraiment, qu'ils ouvrent leurs yeux, soient curieux d'un autre monde qui est le leur aussi.
Alors, vous avez spécifié que Sparte, la BD sur le chien guide d'aveugle, a été commandée justement par des associations qui agissent en faveur du handicap. Est-ce que vous avez d'autres commandes de ce type-là qui pourraient venir plus tard ?
Oui, mais moi, je ne fonctionne qu'avec le cœur. Donc, j'ai fait Sparte parce que j'avais un chien qui s'appelait Sparte. J'ai fait une BD sur Alzheimer, par contre, parce que j'ai été touché par la maladie. Et j'ai contacté France Alzheimer, mais à la fin de la production de la BD, parce que je voulais qu'il y ait une imprimatur d'une grosse association pour dire aux gens qui prennent en direct d'Alzheimer, pour dire aux gens, voilà, c'est sérieux, parce que là, c'est une BD informative, apprendre, comprendre, conseiller, informer autour de la maladie. Donc là, France Alzheimer a mis son imprimatur, donc je leur fais de la pub, ils me font de la pub aussi, et voilà, là, c'est une entente parfaite.
Vous avez d'autres projets sur des problématiques comme ça, du bien vieillir, qui touchent les personnes âgées ?
Non, pas sur les personnes âgées, mais c'est marrant parce que là, je participe au Salon Autonomique de Lille et on m'a demandé une BD sur le cancer. Comme j'étais particulièrement touché par le cancer, peut-être qu'une petite graine a été semée et qu'elle fleurira dans 2-3 ans.
Actuellement, on a compris que la bande à aide va fêter ses 15 ans, le 6e tome va sortir. Est-ce que vous avez d'autres projets qui peut-être tournent autour de la bande à aide ou autour de ces thématiques-là ?
Oui et non, mais ce qui est certain, c'est que je publie aussi des personnes handicapées. Là, par exemple, je viens de publier un chef-d'œuvre qui s'appelle « La dernière couleur fut le rouge ». C'est la vie de Doris Valerio, qui est l'un des plus grands sculpteurs contemporains, qui est aveugle depuis l'âge de 30 ans. Et la dernière couleur qu'il a vue fut le rouge. Et c'est Anne-Sophie Cervanti, une illustratrice qui partage sa vie. C'est un couple fusionnel qu'il a fait. C'est 130 pages, un chef-d'œuvre. Et j'ose le dire, c'est un chef-d'œuvre. Et en plus, elle a été, durant l'élaboration de cette BD, la dernière couleur fut le rouge, elle a été diagnostiquée la stérose en plaque ou une forme de stérose en plaque. Et aujourd'hui, elle est en fauteuil. Mais moi, en tant qu'éditeur, je l'ai vraiment soutenue. Et je viens de le sortir et c'est une fierté absolue d'éditeur.
Donc vous soutenez aussi le projet d'autres personnes handicapées. On a beaucoup parlé des BD, mais vous êtes aussi auteur de romans. Est-ce que vous avez des romans qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui peut-être tournent autour du handicap, de la personne âgée ?
Oui, alors j'ai écrit beaucoup de romans, j'ai même écrit une pièce de théâtre. Là, le 5 mars, Cindy Lopez monte sur scène pour un one-woman show au théâtre des Blancs-Manteaux à Paris, que j'ai écrit, que je mets en scène. Donc moi, j'écris beaucoup de romans. Non, il y a un roman qui me tient à cœur, qui n'a rien à voir avec le handicap, c'est Merci Jean Ferrat. C'est un livre hommage à Jean Ferrat, qui était un artiste d'une gentillesse, d'une profondeur, d'un engagement sincère. Et voilà, je voulais absolument le signaler parce que voilà, Jean Ferrat m'a tout appris dans ma vie intellectuelle. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et je trouve que cet homme était d'une gentillesse extrême. Alors je sais que le mot est galvaudé aujourd'hui. Quand on dit « Oh, lui, il est gentil », ça veut dire que c'est un ego. Non, moi, dans mon propos, quand je dis que Jean Ferrat était d'une gentillesse extrême, c'était un gentil par définition et par humanisme.
Quelqu'un d'humain et de réellement bienveillant. Donc, si on souhaite se procurer vos livres ou vos BD, comment on fait ?
Alors, c'est la difficulté des éditeurs indépendants. Donc, je vais mettre ma petite, je vais lancer mon petit pavé dans le monde de la diffusion-distribution. C'est vrai que ça se saurait si les libraires défendaient les éditeurs indépendants. Aujourd'hui, les pauvres libraires sont noyés par un système que les gros éditeurs ont institué, c'est-à-dire qu'ils les assomment d'office, de livres obligatoires. Et nous, on a très peu de chance. Alors moi, j'ai un site internet, c'est Greart, G-R-R-R-A-R-T, G-R-R-R-A-R-T. Et puis, on va dessus. Et ben, moi, c'est mieux qu'Amazon, parce qu'en plus, je paye mes impôts en France. Et je peux dédicacer les livres si on m'en fait la demande, donc sur greart.fr.
Et si on souhaite suivre vos activités, peut-être, sur les réseaux sociaux, c'est possible ?
Alors, je suis un handicapé des réseaux sociaux, mais c'est mon âge qui le veut. J'ai 58 ans et j'ai une difficulté sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc, voilà, j'ai un Facebook, bien évidemment, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Bien évidemment, j'allais dire. Mais voilà, on va sur le site. Et puis, sur le site, il y a mes coordonnées. Il y a mon mail, il y a tout ça. Je peux vraiment intervenir. Voilà, je réponds à tout le monde.
Un auteur donc, un éditeur, la maison d'édition s'appelle Greart Édition. Vous pouvez vous procurer les livres sur le site internet, les BD sur le handicap, dont la bande à aide également. Georges Greart se trouve au stand D35 et peut dédicacer vos livres. Merci à vous.
Merci à vous surtout.
Voilà, et merci Lucie pour cette interview passionnante. On va retrouver bien sûr d'autres interviews tout au long de l'après-midi. Nous sommes ensemble encore jusque 17h en direct du salon autonomique à Lille. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de passages, beaucoup de d'échanges aussi autour des questions du handicap. Pas uniquement à notre micro, d'ailleurs ça discute beaucoup entre visiteurs et exposants. Et on retrouvera bien sûr d'autres interviews dans quelques instants sur Radio Plus. On a parlé de Grand Corps Malade dans l'interview de Georges Grard. Eh bien, on va l'écouter, Grand Corps Malade, avec les voyages en train.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.
Ma station, ma région, ma passion. Laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas. Sont belles et peu importe où elles nous mènent, aux belles. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. On est
15h passées de 44 minutes sur Radio Plus, encore 10 minutes à passer ensemble avant d'entamer la dernière heure de depuis ce salon autonomique. On va retrouver Lucie en compagnie de son invité qui est en charge des questions de mobilité au niveau d'Ilevia Extranspol.
Oui, donc Ilevia a mis en place un dispositif qui s'appelle Andipol. Marie-Christine va nous en parler un peu plus.
Oui, avec plaisir. Donc c'est un service TLV donc Andipol, donc accessible aux personnes à mobilité réduite, hein, à 80% avec une carte d'invalidité à 80%. Il faut bien entendu résider la métropole lilloise, donc dans les 93 communes de la métropole lilloise. Donc nous contacter hein, au 03 20 43 fois au niveau de notre service clientèle. Afin que l'on lui transmette un dossier à compléter, en plus ensuite à nous le retourner et la demande passe en commission.
Ce dossier à compléter, quelles sont les informations à y mettre? Vous disiez à mobilité réduite, c'est les fauteuils roulants, les cannes.
Tout à fait. Donc dès l'instant que les personnes aient une carte d'invalidité à 80%, donc ont droit à ce service. Donc c'est sur réservation, bien entendu. Donc c'est comme un véhicule adapté aux personnes en fauteuil roulant. Hein. Donc c'est 2,90€ le trajet. Donc, qui prennent les personnes de porte à porte, de chez elles, jusqu'à un endroit qu'ils le souhaitent, chez le médecin ou autre, dans les 93 communes de la métropole lilloise.
Donc, au sein de la MEL, toutes les communes, a priori, desservies par les bus ou les métros dans Paris-Lévia.
Oui, tout à fait, dans les 93 communes de la métropole.
Si vous avez un site internet sur lequel on peut trouver plus d'informations, on va où ?
Alors, au niveau de Handipol, donc c'est Handipol, hein, Handipole, @ilevia.fr.
Et vous pouvez rappeler le numéro de téléphone peut-être ?
Oui, donc c'est le 03 20 40 40 40.
Merci beaucoup, c'était Marie-Christine Villain pour Handipol, un dispositif proposé par Ilevia pour faciliter les transports des personnes à mobilité réduite au sein de la métropole européenne de Lille. Merci.
Merci Lucie pour cette interview. Dans quelques minutes sur Radio Plus, d'autres interviews à retrouver, et notamment celle de la Fédération française Handisport qui sera à notre micro. D'ici quelques minutes, on repart en musique avec Evanescence, Bring Me to Life.
Evanescence à l'instant sur Radio Plus. Et dans quelques minutes, eh bien, nous allons poursuivre cette émission. On va parler d'Handisport à partir de 16h avec notre invité. Ce sera donc d'ici quelques minutes. En attendant, eh bien, on va retrouver Julien et Lucie certainement sur d'autres stands. Hein. On fera également, bien sûr, le bilan de ce salon autonomique. Ce sera d'ici quelques minutes sur Radio Plus. Voilà. J'ai les jingles qui se déclenchent tout seul, voilà. Et que dire d'autre ? Eh bien qu'on est ensemble encore jusque 17h, heure à laquelle vous retrouverez Localement Plus. Alors on a évidemment évoqué beaucoup de sujets très différents. On n'a pas pu faire le tour complet bien sûr des stands. Il y a de nombreux stands. Vous pouvez encore venir hein, au salon autonomique hein, puisque c'est ouvert au public jusque 17h. Il vous reste encore une grosse heure hein, pour venir visiter le salon et vous rendre compte de toutes les innovations qui sont présentes. Sachez que l'ensemble des interviews sont réécoutables sur le site internet de Radio Plus à partir de demain sur le www.radioplus.fr dans la rubrique podcast qui se trouve sur la droite hein, sur le site internet et rubrique émission spéciale, et puis vous allez pouvoir réécouter l'intégralité de ce direct. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes bien évidemment pour la suite des programmes sur Radio Plus, pour la suite et fin de ce salon automique, de ce direct depuis Lille Grand Palais.